Pas de centenaire à Vebray, de Marc Potier. Nouvelle publiée dans le recueil Rivalité. Deuxième épisode. Résumé de l'épisode précédent. René vient de décéder. Il avait 98 ans. Son ami de toujours, Robert, trouve cette mort anormale. Il commence son enquête sans en parler à qui que ce soit. La première nuit, alors qu'il veille sur la dépouille de son ami, un craquement sinistre l'interpelle.
Il revient dans la chambre mortuaire. Tout est normal. Il n'aime pas ce bruit. Il n'aime pas cette angoisse profonde qui est sienne à présent. Tant pis. Il met sa canadienne, pousse la lourde porte d'épaisses planches en chêne, croisées, et se trouve dehors. Le froid vent du nord fouette son visage. Demain, il n'est pas impossible qu'il gèle, et des feuilles vont tomber. À se retrouver ainsi dehors, dans le village dont il connaît chaque pouce carré, la tension a disparu. Il respire profondément. L'origine du bruit semble être le vieux tilleul. Au sol, il trouve une grosse branche cassée. L'observe à la lueur de la lampe de René. La branche ne s'est pas cassée seule. Elle porte des marques de boue jaune. C'est du bord de la rivière. Un rapide examen ne lui en apprend pas davantage. Il va retourner au dernier moment de leur amitié. Il se rend compte alors que la fenêtre allumée est juste dans l'axe du vieux tilleul. On devait l'observer. Cette remarque, signe de l'inhabituel, le saisit et la tension revient. Son cœur s'est brusquement accéléré. Une irrationnelle peur l'habite à présent que son pas mal assuré, lentement, le rapproche de la maison. Des coups d'œil furtifs, de côté et en arrière, ne font qu'ajouter à son trouble. Les ombres, les formes agitées par le vent, sont autant d'interrogations auxquelles il ne répond plus tant il a retrouvé ses frayeurs d'enfant. Quelqu'un l'observe, il le sent, et cette mort suspecte. Quelques pas le séparent encore de son abri. Il est tout essoufflé, autant de peur que par sa course. Vite à son mort, et qu'il l'abrite. Un cri strident dans la nuit glace sa moelle. Il est pétrifié. Il peut à peine avancer. Ce n'est pourtant qu'une renarde qui a jeté son cri. Il pousse derrière lui la lourde porte. Veut fermer le loquet. Il ne sert jamais, il est tout grippé. Il arc-boute toutes les forces qu'il accroche à la vie, n'arrive à rien et panique. Vite, il se dirige vers le placard, sort une bouteille d'huile de table et en verse, beaucoup trop, sur le récalcitrant. Ses mains, qui dégoulinent d'huile, ont peine à tenir l'instrument. Il va les laver. Aidé de la serviette, il tente de nouveau. Le loquet va céder. Il cède et pénètre un peu la gâche. Ouh ! Il est hors d'haleine, blanc de peur. Les volets, vite ! Il y en a quatre. Ça devrait aller. Tous les soirs, René les fermait. À chaque fenêtre, la nuit le cingle et l'inonde. Il sent une présence. Ses gestes sont malhabiles et le vent ne l'aide pas, précipitant même un battant sur ses pauvres doigts. Ça y est, enfin, dans sa tête, il répertorie la maison. Tout y est. Maintenant, il en est sûr. On ne peut plus entrer ici, sauf à tout casser. Il s'assied éponge du revers de sa main, un front, surpris de toute cette sueur, et respire. Il halète. Enfin, se dirige une nouvelle fois vers le placard. Le flacon qu'il en tire n'est pas de même nature. Une vieille prune paraît mieux indiquée. Il s'affaisse, plus qu'il ne se couche aux côtés du corps. Ses oreilles scrutent la nuit. Il a repris son souffle, ses esprits. Maintenant, il connaît tous les bruits. Il s'endort, rassuré par la présence de son ami, près de lui. Son sommeil est agité. Au travers de ses paupières diaphanes, les lumières hésitantes des cierges dessinent des formes dansantes et inquiétantes qui alimentent ses songes. Il n'a pas dormi une heure qu'il sursaute. « Où suis-je ? » Il effleure le corps inerte. « René ! » Le secoue. Comprend. Son cœur bat la chamade. Une idée l'a pénétré au réveil. Et si, profitant de sa visite au tilleul, l'espion était entré ? Il ne lui en faut pas davantage. La panique l'a repris. Il se précipite, lentement, sur sa lampe de poche et commence l'inspection. Les ombres, allongées par la lumière de point, peuplent son esprit encore embué de sommeil, d'angoisse d'un autre âge. Prudente, approfondie, mais vaine inspection. Pas de traces, pas de signes de vie. Elle n'a toutefois pas été inutile. Le téléphone. Il vient de voir le téléphone et s'est remémoré. René avait reçu un appel téléphonique. Il s'en souvient à présent. Alors qu'il somnolait encore, une frêle sonnerie. René s'était absenté 2 ou 3 minutes. Qui c'était ? Une erreur. Ce fut tout. Mais il l'entend distinctement. Il mentait. Jamais pourtant il ne lui avait menti. Ce n'était pas une erreur. Pourquoi serait-il resté 3 minutes sinon ? C'est à partir de ce moment-là que son ami avait changé. Dans la nuit, il mourait. Il est temps de mettre ses projets à exécution. Avoir retrouvé cette vérité l'a rassuré sur lui-même. Il est dans le vrai. Son cœur ne bat plus de frayeur. Il piave d'impatience. 00:30. À part son espion, peut-être, tout le monde doit dormir. Il est temps d'agir.
Mais que prépare Robert ? Quelles idées a-t-il derrière la tête ? Vous le saurez en suivant le prochain épisode. Cette lecture est aussi disponible sur humanoriste.com.
Chet Baker, Misty.